Tout juste 20h02 sur Radio G. On va tout de suite pouvoir découvrir une nouvelle émission de Génération Sport. Bonsoir à tous et ravi de vous retrouver pour cette nouvelle émission de Génération Sport. On est le mardi 3 octobre et donc on est toujours là pour parler de l'actualité sportive locale et internationale sur Radio G avec une équipe au complet une fois de plus. À mes côtés donc Faustin, Cédric et Clément. Je vais saluer d'abord Cédric qui est à ma droite. Salut Cédric, comment ça va?
On n'a pas le temps de saluer là ce soir.
On n'a pas le temps.
Il y a déjà une breaking news.
Ouais, qu'est-ce qui se passe, Cédric?
Il y a déjà une breaking news. Il y a déjà les Ducs qui ont ouvert le score à Marseille.
Pas mal, ça.
Mais tu devineras jamais en combien de secondes?
En combien de secondes?
C'est aussi long qu'un combat des MMA.
Ah, ok. Donc
apparemment,
c'est pas très long, du coup.
Ouais, ça a été quasiment au coup d'envoi. D'après ce qu'on peut voir au niveau du temps, ça met 0,17.
Ah oui, du coup, c'était très, très, très rapide.
But de Vincent Lorca, avec, je pense, une assistance. Donc, ça chauffe déjà à Marseille, quoi.
Exactement, sur la patinoire marseillaise. À ma gauche, Faustin, qui est également là. Salut Faustin, comment ça va?
Salut Alex, salut tout le monde. Ça va très bien. J'ai enfin gagné en saison avec mon équipe au basket. Deux matchs en plus. Deux matchs dans le week-end, deux victoires.
Voilà, mais voilà. Arrête pas.
C'est reparti. En fait,
t'en as eu une et puis tu dis non, j'en veux une deuxième.
Voilà, c'est ça.
On va refaire un match
dans la foulée. Okay.
C'est pas mal.
Ça me fait plaisir.
Donc un bon week-end.
Ouais, voilà. Mieux que la semaine dernière, on va dire.
Effectivement. Clément est également avec nous. Salut Clément, comment ça va?
Salut à tous, salut Alex. Bah moi j'ai pas pu jouer ce week-end, mais mon équipe a quand même gagné. On est sûr de monter à la division, dans la division d'au-dessus. Donc
parfait ça. Un très bon week-end aussi. Parfait, plein d'enseignements. Au programme de cette émission, Clément qui va d'ailleurs donc nous proposer certains résultats. On va pouvoir alterner un petit peu. Tu vas nous parler notamment des deux victoires du SCO, qui sont importantes pour la suite de la saison. On parlera du SCO en balle, des Ducs d'Angers. Faustin nous fera un point sur le basket. Sinon, dans l'international, on va avoir donc évidemment le foot avec ce soir la Ligue des Champions avec un très beau Lens Arsenal. Sinon, la Coupe du Monde de rugby. On n'avait pas eu le temps la semaine dernière de revenir sur tout ce qui s'est passé et sur l'avenir de l'équipe de France dans ce tournoi. Au niveau du basket, c'est Faustin donc qui nous fera un point sur la NBA et ce trade, c'est ça, hein, de Damian Lillard qui va aller du côté de Milwaukee, c'est ça. Au niveau de la MMA, on fera un point sur le combat, donc on a déjà un peu parlé, on l'a un peu introduit, ce combat assez fou entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo à l'occasion du PFL Europe, et on viendra sur ce combat, même s'il y a évidemment pas grand chose à dire. Le débat, on l'a dit en off, hein, mais le débat pourrait durer plus longtemps que le combat.
Ouais.
C'est ça qui est assez original. Et puis sinon, on fera un petit point sur les résultats du week-end en handball, mais aussi avec la Ryder Cup en golf. Et ben, je propose de commencer tout de suite avec donc Clément. Tu vas nous faire un petit point donc sur les deux matchs du SCO puisque ils ont joué donc en semaine. Ils jouaient pendant l'émission la semaine dernière.
Ouais. Non, après l'émission même. À 20h45.
Ouais, un peu du coup pendant et voilà, un peu après.
Le,
voilà,
le premier quart d'heure est en direct.
Ouais. C'est ça, ouais. On pouvait avoir justement la breaking news. Bon, il y avait 0-0 à 21h quand on a clôturé, mais bon, voilà. Et ben, du coup, je te laisse la main. Donc voilà, pour nous parler de ce premier match qui a eu lieu mardi dernier.
Donc, nos SCOistes ont donc signé mardi et samedi leur 4e et 5e victoire de la saison. Avec ces deux matchs dans la semaine, nos Angevins ont pu faire le plein de confiance. Mardi dernier, Pierrick Capel et ses 10 coéquipiers ont su maîtriser leur match sur les terres rouennaises face au dernier de Ligue 1. Les hommes d'Alexandre Dujeu se sont donc imposés facilement grâce à un seul petit but marqué à la 39e minute de jeu par Loïs Diony sur une superbe passe de Farid El Melali. Les deux hommes en forme ont su confirmer ce samedi face à Concarneau avec leurs deux buts qui ont permis qui ont été marqués respectivement à la 77e et 96e minute de jeu et qui ont permis aux Scoïstes, de s'imposer après un début de match un petit peu poussif. Après cette victoire 2-0, le SCO se classe donc quatrième après 9 journées avec 17 points et voit enfin une dynamique positive se dessiner après un début d'année à demi-teinte.
Effectivement, c'est vrai que c'est toujours rassurant d'enchaîner deux victoires de suite.
Bah même trois du coup.
Trois du coup. mais en tout cas là deux en une semaine, en quelques jours. Ouais. Voilà, c'est vrai que pour la confiance, c'est toujours bien. On parlait quand même aussi du calendrier des adversaires qui sont quand même assez jouable avec Quevilly-Rouen, c'était mardi et
Concarneau.
C'était voilà, ouais. Concarneau qui est promu notamment de national. Oui. Donc voilà, c'est vrai que le SCO revient quand même donc à la quatrième place, ce qui est quand même assez énorme avec pas mal d'avance sur aussi les concurrents qui sont juste derrière. Est-ce qu'on y croit à cette lutte pour la montée? Alors, je dis pas montée, mais au moins dans la bataille, quoi. C'est quand même, je dirais pas inespéré, mais on n'était pas sûr de ça au début de la saison.
Si on est dans le top 10, j'ai envie de dire à la mi-saison, je pense que déjà il y aura un pari de réussi, quoi.
Ouais, parce que ça va être très serré.
Dans l'état qu'on avait retrouvé l'équipe, en match de préparation.
Il y a quand même encore beaucoup de joueurs qui sont de ça. Enfin, je veux dire. Tu parles de la préparation ou de la saison d'avant?
Parce que sur l'ensemble des deux.
Parce que du coup, il y a aussi beaucoup de joueurs qui sont restés l'année dernière. Quoi. On n'a pas fait table rase.
Non, mais
des joueurs qui ont vécu des moments très durs.
Entre la fin de la saison et les matchs amicaux qui n'ont pas donné beaucoup de sûreté, en tout cas, aux yeux des supporters, peut-être que l'entraîneur avait peut-être eu quelque chose, une vision, je ne sais pas. Mais en tout cas, ce qu'on peut constater, c'est que le travail, en tout cas, a l'air de payer. Est-ce que les joueurs sont plus impliqués qu'avant? Je pense que oui, au final. Est-ce que tous les changements qu'il y a eu, finalement, ça a l'air de servir? Après, voilà, je pense que maintenant, faut prendre les matchs un par un. Je te dis, si à la trêve de Noël, on est aux alentours de la 10e place, on pourra réellement parler d'une saison, je pense, à peu près réussie.
Il faut aussi faut aller au bout quand même des 38 journées, quoi.
Oui.
Ouais, mais bon, quand tu vois l'état qu'il y avait d'équipe.
Oui, non, mais je veux dire.
Personne ne les aurait mis
On peut être dans le top 10 et être relégué en fin de saison, quoi. En tout cas, ouais. Fin de saison si c'était le cas.
Généralement, si t'es dans le top 10.
Bien sûr,
à mi-saison.
Oui, mais.
Il y a très peu de chances que tu puisses.
Oui, bien sûr.
Tomber aussi bas.
Alors, relégué, peut-être que j'abuse, mais tu vois, si on termine 15e, on pourra pas dire que sur l'ensemble de la saison. Parce qu'on a déjà fait des saisons
Tu restes en ligne 2.
De battre là. Oui, mais.
Le but, c'est de rester au moins en ligne 2, hein, cette année.
Ouais, après. De toute façon, pour toi, l'objectif, ce serait de viser l'hiver, quoi.
Bah, l'hiver, déjà, ça va être un bon indicateur.
Ouais. Mais il y a quand même un objectif quand même à la fin de saison. Ce serait quoi l'objectif fin de saison?
Cette année, ce serait complètement débile de dire on remonte directement.
Non, mais.
En Ligue 1, je te dis.
Top 10. De garder le top 10 jusqu'à la fin.
Top 10 dans l'idée. Mais je pense qu'ils seront plus entre 10 et 15. Hein.
Ouais, ok, d'accord.
Parce que logiquement, t'as des grosses écuries qui vont quand même logiquement réagir. Hein. Bordeaux, pour l'instant, c'est un peu compliqué. Saint-Etienne, Ça a l'air d'aller un peu mieux, mais bon, on sait qu'il y a Saint-Etienne, ça peut très vite partir en crise. Donc c'est pour ça, je dis, à la trêve, on sera bien, quoi.
Clément, t'es pas forcément d'accord?
Bon, moi, je considère le SCO, après le début de saison, un peu comme, enfin, peut-être pas une grosse écurie, mais ils sont dans les outsiders de la Ligue 2, et enfin, on a quand même des bons joueurs, Loïs Diony qui est très en forme, ouais. Déjà 5 buts.
Ça c'est
et
fort.
Puis,
on l'a pas vu revenir, hein, quand même. C'est...
Pour moi, c'est un joueur de Ligue 2 qui, en Ligue 1, a eu du mal à faire ses preuves, mais en Ligue 2, il a toujours performé. Et c'est un joueur de Ligue 2 pour moi,
qui correspond bien au défi du SCO, quoi, c'est ça. Comme aussi beaucoup de joueurs. Comme El Melali,
c'est ça. En Ligue 1, ils auraient un peu plus de mal, quoi.
Bah, ils ont eu plus de mal les dernières.
Plus de mal, oui, c'est sûr.
Et toi Faustin, t'en penses quoi?
C'est vrai que la montée c'est un objectif potentiellement atteignable mais très difficilement atteignable, on va pas se le cacher, mais c'est vrai que un top 10 fin de saison, c'est là largement atteignable. Et je pense que c'est peut-être un objectif qui n'était pas visé dès le début de la saison, à mon avis.
Ouais.
Mais au vu de ce qui est en train de se passer là, c'est ce qui est en train de se rapprocher pour la fin de saison. Et c'est tout bénef. Hein. C'est, moi, j'y croyais pas au début
c'est
de la
clair,
saison.
C'est clair,
moi aussi.
Et pendant ce temps-là, nos amis, nos voisins Lavallois, carburent en tête du championnat. C'est vrai que ça, c'était aussi une surprise, une donnée qu'on n'avait pas forcément prévue. Et mais c'est vrai que derrière, ça reste serré. Mais c'est vrai que pour le coup, je partage un peu votre avis. On est plus des outsiders qui vont être dans la lutte. Et c'est vrai que ça reste inespéré par rapport au début, enfin, par rapport à l'avant, avant le début de saison. Et mais voilà, on n'est pas encore favori non plus. Voilà, on va pas faire l'ascenseur comme certaines d'autres équipes. Mais voilà, donc des résultats quand même très encourageants pour le SCO. Et à noter, donc parce que on avait parlé un peu de ça en début de saison, de Yaya Fofana et du gardien qui avait quand même quelques difficultés, celui qui est d'ailleurs été appelé avec la Côte d'Ivoire chez Léa. Mais qui vient d'enchaîner plusieurs clean sheets, qui a 6 sur la saison, c'est ça,
ouais, il me semble
c'est ça, les gars?
Ouais, ouais, 6.
Il me semble que toutes les victoires, c'est un clean sheet.
Bah, du coup, on est à 5 victoires et 1 nul 0-0, ouais, donc c'est ça.
Donc c'est ça, il y a 6 clean sheets. Mais on va dire que c'est un joueur qui, d'ailleurs aussi nous l'a montré un peu l'année dernière, est capable de très bonnes choses, de très bonnes performances, mais peut craquer sur des petits détails. Et on l'a dit, il y a 2 buts. Assez sur la saison qui sont quand même rares à prendre pour un gardien, notamment entre les jambes dans un espace fermé, et il en a pris 2 comme ça, donc contre l'Aise et contre Auxerre, et donc il a certains moments où ça déconnecte, où il a certains encore points faibles.
Je pense que c'est un gardien qui fonctionne beaucoup à la confiance, et enfin là tu vois une défense sûre, forcément ça te rassure, et puis d'enchaîner les clean sheets comme ça, peut-être qu'il va réussir à engranger encore plus de confiance et être vraiment bon.
Ouais, et puis surtout l'année dernière, donc pour expliquer, donc il avait été acheté par Angers.
Du Havre.
C'est ça, au Havre en 2022, et il est arrivé en 2022-2023. Sauf qu'il était derrière Bernard Donny, qui était toujours là, toujours bon en plus, même si le club perdait beaucoup. Et donc forcément pour lui, la confiance, le peu de matchs qu'il a fait, il n'était pas dans les bonnes conditions. Et là, c'est vrai qu'on le voit numéro 1, il n'y a pas de débat. Et il carbure, quoi. C'est vrai que c'est pas mal. C'est vrai que t'en penses quoi des bonnes performances? Ça peut être aussi une clé d'avoir un bon gardien, une bonne défense, parce que l'attaque, on n'est pas non plus, même si il y a Loïs Diony, on n'est pas non plus à mettre des festivals de buts à chaque match, quoi.
Il y a Nian aussi qui est pas mal en ce moment, et puis El Melali aussi qui carbure bien.
Mais voilà, on n'a pas encore mis de grosses claques à nos adversaires.
On se concentre.
Est-ce que une défense de fer, Osco, ça peut nous changer aussi de l'année dernière?
De toute façon, c'est ce qui manquait l'année dernière. Hier, on avait carrément un panier percé, faut pas se leurrer. Si on parle du gardien, vraiment, où je pense qu'il, forcément, avec les victoires et les clean sheets, il prend de la confiance.
Ouais.
Faut juste espérer que, cette confiance, elle tienne. Parce que, faut voir si au moins de petits pépins, est-ce que ça va être une redescente aux enfers pour lui? Est-ce qu'il va supporter ou pas aussi la pression d'enchaîner les clean sheets? Ça peut être aussi un effet négatif sur un gardien. Parce qu'il peut se sentir très bien en super confiance et trop confiant justement. Et c'est là que généralement on fait des boulettes. Mais en tout cas, pour l'instant, c'est rassurant au vu de ce qu'on pouvait penser de lui en début de saison.
Ouais, c'est vrai que le début de saison n'était pas rassurant. Et finalement, ça se passe bien pour le SCO et pour Yaya Fofana, le gardien ivoirien.
On va enchaîner encore avec une break-in.
Oh là là là, ça n'arrête pas, c'est vrai.
5e minute, 2-0 pour Angers.
C'est
2-0 pour moi. Ça démarre très bien d'ailleurs. Écoute, je comptais parler du score en balle, mais écoute, on va passer tout de suite au Duc d'Angers, à la page des Ducs d'Angers, parce que ça me fait penser ça. Il y a beaucoup de buts là déjà.
En tout cas, ouais.
Il y a déjà 2-0 en
c'est
à peine.
C'est surtout avec peut-être le but le plus rapide de la saison.
C'est en à peine 16 minutes, il y a donc 2 buts. Ça fait penser du coup au match de la semaine dernière. Et oui, parce qu'il y a une semaine, il y avait un match. Donc on parlait aussi pendant l'émission du très bon début de saison des Ducs d'Angers en Ligue Magnus. Eh bien, il faut croire qu'on a un peu porté l'œil à nos amis hockeyeurs angevins, puisque le soir même, les joueurs de Jason O'Leary ont subi une déculottée sur la patinoire des Rapaces de Gap avec une claque 9-1.
On les avait quittés en fin d'émission, ils étaient à 2-0.
C'est ça, et moi j'ai pu, enfin, Je regardais sur Twitter un petit peu les tweets de Duc d'Angers. Encore un but, encore un but, encore un but. Et je pense que le CM des Ducs d'Angers n'en pouvait plus de tweeter les buts des Gapois. Je sais pas comment on dit Gap.
Ouais, si. C'est, bah, sinon on dit des rapaces. Hein.
Ouais, des rapaces.
Des rapaces de Gap. C'est pratique. Comme ça, le problème est... Et résolu. En fait.
Exactement. Donc voilà, une soirée à oublier pour les Ducs qui ont su rebondir trois jours plus tard à l'Ice Park contre les Boxers de Bordeaux. Dans une partie assez indécise, les Angevins ont su maîtriser cette rencontre pour l'emporter finalement. Donc 4-3. Et donc ce soir, match, comme tu le disais Cédric, à Marseille contre les fameux Spartiates de Marseille qui sont donc, d'ailleurs je crois promus.
Quand tu es promu sur...
Parce que ça reste une ligue fermée, je crois.
C'est enfin plus ou moins fermé en tout cas, mais il faut avoir le bon budget. Et,
c'est ça, ouais.
Du coup, il y avait un club, voilà, c'était vraiment trop compliqué. Et sur proposition, en fait, il y a une place qui s'est libérée.
Et Marseille.
Il y avait trois clubs, je crois, dans la liste de postulants. Je crois qu'il y avait Nantes d'ailleurs aussi.
Ok.
Et en termes de, on va dire, de budget solide et tout ce qui allait autour. C'est Marseille qui avait le meilleur dossier, donc c'est comme ça qu'ils sont montés.
Donc pas mal. Parce que c'est vrai que des grosses villes, il y en a pas beaucoup. Il y a pas Paris par exemple, il y a pas Lyon. Donc c'est bien aussi d'avoir une.
Ah Paris est pas vraiment représenté, mais bon, t'as le club.
Sergi Pontoise.
Voilà, t'as Sergi qui est autour.
Et qui est dans la région.
Ouais. Mais non, oui, en tout cas. La semaine dernière, oui, ça a été l'ascenseur émotionnel.
Ah bah oui, on est là pendant toute l'émission, on dit ah, ils ont lancé leur saison, ils sont parfaitement bien.
Surtout, voilà,
ils étaient deuxièmes. Et là, 9-1.
Grenoble,
on venait pas de Grenoble.
Grenoble qui a l'air d'être pas en forme non plus actuellement.
Et là, 9-1 contre Gap.
Et là, derrière, on joue contre la Lanterne Rouge.
Et j'ai regardé un peu, il n'y avait pas d'absent en plus.
Alors, ce qui peut peut-être expliquer... Par rapport aux autres matchs, c'est qu'il y a eu un changement au niveau du gardien.
Ah oui, quand même.
Ouais, ouais, okay. Ouais.
Donc ça joue, du coup.
Bah, ça peut être une piste. Hein. Après, j'ai pas vu beaucoup d'analyses par rapport à ça.
Remettre la faute sur, évidemment, ce second gardien.
Mais voilà, j'ai l'impression qu'il y a peut-être une volonté de faire tourner les gardiens cette année. Pour qu'ils aient autant de temps de jeu.
Peut-être moins, du coup, après ce match.
Bah, peut-être, oui. Après, c'est. Enfin. Vaut mieux, comme on dit, hein, vaut mieux se prendre une fois 9-1 que se prendre 9 fois 1, quoi.
Et c'est 9 fois 1-0, exactement. C'est très simple.
Non, derrière, voilà, c'était.
Ouais, ils ont rebondi, non, ils ont gagné vendredi.
Ouais, contre les boxeurs, bon.
Contre les boxeurs de Bordeaux.
Il met 4-0 ou 4-1. Et les boxeurs, derrière, sont revenus, je crois.
C'est ça, ouais. Un truc comme 3-0, 3-2, 4-2, 4-3, et ils ont un petit peu peur sur la fin.
On va dire que c'est pas non plus le match parfait.
Mais au moins, quand même.
Mais voilà.
C'est un match que tu peux perdre dans le scénario. Mmh.
C'est ça.
Où mentalement, tu viens prendre 9-1, tu te fais remonter, tu vois. Et il y a quand même.
C'est ça,
on fait
un gros impact, parce que bon, il y a eu peu de temps en plus pour digérer la défaite.
Ouais,
je pense que voilà, là-dessus, ils ont dû bien travailler entre-temps. Là, en tout cas, ça a l'air d'être bien parti à Marseille, sur une nouvelle patinoire qu'on connaît pas forcément, donc ils ont pas forcément aussi leur repère. En tout cas, voilà, bon, je pense que le fait d'avoir marqué, on va dire dans les 20 premières secondes,
ça
te libère, je pense, déjà de ce poids-là de marquer le premier. Ça a enchaîné à la 5e minute.
Est-ce qu'il y a du goal average, du point average au hockey, non?
Non.
Peut jouer, hein.
Alors, il existe, hein, mais c'est pas vraiment ça
qui détermine
c'est pas
la
ça
place
qui
en cas d'égalité.
La différence, ce qui peut faire la différence, c'est simplement en cas d'égalité au bout des tiers-temps, il y a la prolongation. Et la prolongation te fait perdre des points par rapport à une victoire. T'as une victoire, mais sur prolongation, donc
c'est différent.
Donc c'est ça qui peut, en fait, y jouer.
Exactement. Donc voilà, tu nous tiendras au courant, Cédric, des résultats.
Alors, en tout cas, ouais, on va espérer que ça continue.
Exactement. Dans ce sens, avec.
Peut-être falloir qu'on commence à investir dans un jingle breaking.
Exactement, peut-être. Il faut qu'on fasse l'habillage. voilà un petit peu pour les Ducs d'Angers. Faustin, petit point basket, parce que voilà, on est le 3 octobre, tous les clubs du Maine-et-Loire ont repris. tout cas le club professionnel évidemment. Alors Cholet a joué ou pas ce week-end?
Bien sûr que Cholet a joué. Ah, des bien, matchs très importants, trois matchs cette semaine.
Trois matchs très importants. Eh ben écoute, je propose de commencer. Par quoi tu veux commencer? Je
te laisse. Bah, tiens, on va commencer par Cholet tant qu'on y est. Donc je disais des matchs très importants parce que c'était les trois matchs qualificatifs pour la Ligue des Champions. Je l'avais dit
la semaine dernière,
il y avait l'absence du capitaine Kim Tilly, mais ce qui n'a pas empêché aux hommes de Laurent Villa d'assurer leur qualification en Ligue des Champions en remportant haut la main leurs trois matchs. Et c'est parfait, comme ça on va retrouver les Choletais en Europe, comme l'année dernière, en espérant qu'ils fassent au moins le même parcours, c'est-à-dire aller en finale et peut-être cette fois remporter cette finale. En tout cas, c'est tout ce qu'on leur souhaite. Mais évidemment, à part ça, ils jouent demain contre les Mets pour une reprise du championnat après une très bonne semaine pour eux.
Maintenant, le
AB? Ouais, le AB qui ont du mal à lancer leur saison en Leaders Cup parce que c'est une nouvelle défaite qu'ils ont affrontée face à Nantes. Ça fait 87 à 75. C'est déjà leur troisième défaite en Leaders Cup alors qu'l'année dernière ils l'avaient remporté cette Leaders Cup. Et là, c'est dès les premières journées, ils se prennent des grosses défaites. Ils jouent leur match retour de Leaders Cup donc contre Orléans ce soir à 20h à Jambouin. Le match a dû déjà démarrer. Maintenant, l'UFAB, c'est aussi pour elle aussi une défaite. C'est 67 à 63 contre l'ASVEL. On l'avait dit, l'ASVEL qui avait perdu leur premier match tandis que nous Angevine avait gagné. C'était assez serré du coup.
Défaite encourageante.
Ouais, c'est ça, que 4 points contre l'ASVEL, ça reste une équipe très forte malgré.
Qui a mis des grosses claques à l'UFAB l'année dernière quand même.
C'est clair, parce que clairement, j'ai plus les scores en tête, mais
il y avait un plus 20, 30. Ouais, ça, il y a eu un plus 30 en Europe.
On s'en souvient.
On s'en souvient très bien. Nos invités de l'UFAB nous en parlaient. Je crois que c'était Naba Lafouana qu'on avait reçu juste après le match aller où elles avaient pris plus 30.
Et elle est rejouée direct en plus.
C'est ça, et c'était compliqué.
Je crois qu'elles avaient enchaîné trois matchs d'affilée. Ouais, c'était un peu fou pour
elle
ça.
Elle était en mode, j'en peux plus des Lyonnaises là, c'est bon.
Mais, à noter sur ce match-là, c'est que, en tant que partenaire, on a reçu la New Wrestler de la semaine. Justement, on avait un petit compte-rendu du match. Ce qu'il faut savoir, c'est que Angers a quand même mené pas mal pendant ce match-là et que ça joue vraiment dans le dernier
time.
Voilà, ouais, c'est.
Et donc c'est très encourageant.
Ah bah carrément. Voilà, ça.
C'était à Lyon.
Ouais, c'était à Lyon en plus.
Donc très très bonne nouvelle pour les Angevines qu'on recevra normalement donc à la fin du mois.
Ouais. Puis je pense qu'il y a alors c'est encourageant de notre côté, mais je pense que le discours à la fin du match a dû être un peu guerrier tout ça pour bien relancer la machine parce qu'on joue quand même derrière aussi un gros club.
Basketland,
voilà. Et
le retour de Peterson.
Ouais, le retour de Peterson entre autres, mais c'est surtout voilà quand tu perds le match on va dire sur le fil du rasoir là comme ça. Je pense que surtout en début de saison tu peux avoir le gros coup de marteau. Et je pense que derrière il y a eu tout le travail de fait. On va pas lâcher, on va mettre deux fois plus de force et on va y aller encore plus en guerrière. Et
on espère que ça.
Je pense que en tout cas ça va porter ses fruits.
Ouais. Aurélie Bonan, elle a l'air pas mal, je pense, dans ce rôle-là, de remotiver les troupes.
C'est ça, ouais, je pense que. Elle serait là, je pense qu'elle aimerait pas le terme que je vais employer, mais c'est quelque part une défaite encourageante. En tout cas, une défaite où je pense qu'il y a beaucoup d'enseignements très intéressants.
Elle va retenir au moins ça, au moins les enseignements. Elle oubliera la défaite, mais elle retiendra.
Oh, je pense que tu n'oublies jamais la défaite, mais.
Oui, c'est ça. Faut pas parler de défaite à Aurélie Bonan.
Tu s'en serviras pour le match retour.
Exactement. Bon, bah, merci Faustin pour ce petit point basket. Petite curiosité, en N2, parce que on le rappelle, tu joues à Avrillé Basket, et votre équipe féminine numéro 1, on va dire, joue en N2, ce qui est un très très bon niveau. Est-ce qu'il y a eu victoire ce week-end?
Ce week-end, il me semble qu'il y a eu victoire.
Il y a eu victoire. Deux victoires en trois matchs.
Ouais, c'est ça.
Ce qui est quand même assez pas mal.
Deux victoires à domicile et une défaite
contre
à l'extérieur.
Pau Orthez, non?
Ouais, c'est ça. Ouais.
En tout cas, on leur souhaite évidemment le maintien en N2, puisqu'on sait aussi qu'il y a, alors on place aussi, on va essayer d'être impartial, on va aussi placer un big up, comme on dit, à Lamboisière, qui est aussi dans le département, à Saumur, et qui sont dans la même poule. Voilà pour ce petit point basket N2. On va passer sans plus tarder maintenant au handball. Après une sévère défaite subie à Massy la semaine passée, le SCO handball recevait O'Hara, une équipe de Nancy qui évoluait en première division il y a encore 2 ans. Après un début de partie assez serré, les Angevins vont se rendre le match plus facile après les 10 premières minutes de jeu. À la pause, les joueurs d'Issamtej repartaient avec un avantage de 6 buts, un avantage qui va se creuser lors de la seconde période pour atteindre finalement le score final de 39-30. À noter la très bonne performance de Ahmed Abdelhak qui termine dans l'équipe type de Pro League du week-end, un peu comme donc Gaspard Pommier il y a 2 semaines. Une très bonne performance pour l'arrière angevin qui a beaucoup marqué dans ce match et qui a fait beaucoup de bien à l'équipe d'Issamtej. Le SCO handball qui, pour l'instant, donc avec 2 matchs et 2 victoires, se situe dans le milieu de tableau de cette deuxième division nationale de handball. Voilà pour les différents résultats locaux de ce week-end. On va revenir après la pause musicale pour vous parler Ligue des Champions, Coupe du Monde de rugby et même un petit peu de MMA. On va s'écouter Damso et son titre 911 et on se retrouve juste après.
Fais le 911, j'crois qu'un gangster est tombé là. Évidemment, tu poses des questions, tu dis que le thème c'est jamais OG. Fume, fais de l'argent, l'amour là pense à rien d'autre. Mais j'me ramollis, j'suis tombé là. Fais le 911, j'crois qu'un gangster est tombé là. Me fais des films, je rêve, les yeux quand ouverts, je plane. Oh god, non, je pars en vrai. La drogue est viscère, en pédo, je tire une grosse tape. Oh god, je crois que je me ramollais. Je suis tombé là. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Je me ramollais. La bossure sur des lèvres, enchantée de revivre mon lifestyle. J'ai clé sur des tasses dans le palais. Pour toi, je pourrais même revendre du pêche. Pour toi, je pourrais même parler au cœur. Non, je mens. Pour toi, j'arrêterai de mettre dans les seufs. Pour toi, je crois que je pourrais dire que t'es ma meuf. Quand je sors, oh merde, je me ramollais. Je suis tombé là. Fais le 911, je crois qu'un gangster est tombé là. Ramollé, j'suis tombé là. Fais le 911, j'crois qu'un gangster est tombé là. Là, 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 là.
Damso et son titre 911, 911, comme vous préférez. On est de retour dans Génération Sport, l'émission sportive de Radio G. Vous nous écoutez depuis le 101.5 FM ou bien sur Internet avec le site www.radio-g.fr ou bien encore sur les applications d'A+. On est de retour donc avec Cédric, Clément et Faustin pour la partie internationale de cette émission avec les différentes actualités. Eh ben écoutez messieurs, on va commencer sans plus tarder par parler de football. On va essayer de faire court hein, parce que c'est vrai que sur les dernières semaines on a quand même beaucoup monopolisé autour de ça. Clément, tu vas nous faire un point sur les résultats de Ligue 1 et puis après on évoquera les matchs du soir et plutôt et aussi de demain sur la Ligue des Champions. Je te laisse la main.
Donc pour cette 7e journée, elle a débuté avec la 2e victoire de rang pour une équipe lensoise en regain de confiance qui s'impose 1-0 face à Strasbourg. Ensuite, le PSG a été tenu en échec sur la pelouse de Clermont sur un décevant 0-0. Marseille s'est incliné dans un match très important pour la première de Gattuso face au Monégasque sur le score de 3-2. Reims, grâce à une victoire 2-0, a encore un peu plus plongé les Lyonnais qui ont toujours aucune victoire au compteur. Toulouse s'est imposé à la maison face à Metz. Lille a battu le Havre 2-0. Le match entre le premier et le deuxième qui opposait Brest et Nice n'a pas tenu ses promesses avec un triste 0-0. Montpellier vient décrocher un très beau 3-0 chez les Lorientais. Et pour finir le week-end, lors du mythique derby du Nord-Ouest, c'est Rennes qui s'impose 3-1 face à leur rival de toujours qui, je le rappelle, sont les Nantais.
D'accord. Et très bon résumé de ce qui s'est passé en Ligue 1. Donc voilà, Lyon qui coule. Mmh. Qui coule.
Ça a l'air de
s'affirmer. Qui creuse, ça tombe.
Tolisso qui a fait
qui pleure mais d'un côté il a qu'à voilà bref on va pas revenir sur cette performance c'est pas le seul à accabler évidemment croyez-moi que si j'ai le temps je vous fais une liste et c'est assez longue mais on a jusqu'à que 21h bref parce que
Lyon est peut-être dans la panade comme Marseille en termes de résultats, voilà, c'est.
Bah oui, enfin, j'aimerais avoir le nombre de Marseille. Hein.
Ouais, mais en tout cas, c'est ce qu'on voit, c'est surtout les supporters qui lâchent pas l'affaire et ça continue à Marseille de mettre la pression sur les joueurs, comme à Lyon, ça continue aussi de leur mettre la pression. Ce que je trouve dommage, c'est que les joueurs, malgré voilà que c'est difficile en interne en ce moment pour les deux clubs, font l'effort d'aller voir les supporters en fin de match. Et derrière, on leur reproche de pas mouiller le maillot.
Si je peux être, les supporters ont fait quand même preuve d'unité malgré, parce qu'on avait vu les images donc après le match contre le PSG, comme tu disais, où les supporters engueulaient les joueurs lyonnais. Les supporters se sont motivés pour redonner de l'allant aux joueurs avant donc ce déplacement à Reims, avec notamment ils ont, je crois que c'est à l'aéroport où ils se sont tous réunis avec des chants et tout. Ouais. Et donc c'est là ce qui est plutôt bien. Donc ils voulaient aussi, ils faisaient un pas aussi vers les joueurs. Et les joueurs, pas un mot, pas un regard, quasiment pas en tout cas. Donc voilà. Mais surtout, moi je peux comprendre les supporters quand tu vois le niveau sur le terrain. C'est vrai qu'à un moment donné,
ouais, mais tu peux pas.
Tant que c'est pas, ça déborde pas, ça va. Mais à un moment donné, il faut aussi.
Tu peux pas les attaquer sur le premier match avec le nouvel entraîneur comme ça. Enfin.
Bah c'est le deuxième déjà, mais sauf que ces joueurs-là, ils sont là depuis le début de saison et ils moulent pas mal depuis le début
de
saison.
Ouais, mais bon, comme on sait que, enfin.
C'est, là, ils sont pas en train de reprocher rien à Fabio Grosso. C'est les joueurs qui sont pas bons. Bref. Ça va être un long débat. On va perdre notre temps et après on va dire qu'on parle trop de foot. Donc, mais je peux faire très longtemps sur ça.
En tout cas, maintenant, ok, il y a 3-1.
Il y a 3-1 pour les Ducs?
3-1 pour les Ducs.
Ah bah, il faut l'annoncer parce qu'on pourrait croire qu'on parle de Lyon encore. 3-1 et les Ducs de Angers, donc 3-1 qui mènent 3-1.
C'est pour ça que j'ai dit ok.
Exactement. Oui, pardon, j'avais mal compris. Donc voilà pour la Ligue 1. Merci à toi Clément pour ce petit point. On va parler maintenant Ligue des Champions avec déjà les matchs en cours puisque l'Union Berlin reçoit Braga de partout entre les deux formations dans le groupe C. On a également la Real Sociedad qui mène 2-0 du côté de Salzbourg. Les gros matchs de la soirée. Et ben il y a pas mal de belles affiches, il y a un petit Manchester United Galatasaray qui est plutôt pas mal avec une équipe de Galatasaray qui a pas mal de bons joueurs. On a Naples Real Madrid, pareil, c'est plutôt pas mal avec le champion d'Italie contre le Real. Et puis on a l'Inter Milan qui joue contre Benfica, un remake du quart de finale de la saison passée. Et puis surtout, j'ai envie de dire le prime qui va nous intéresser, le climax de cette soirée, c'est Bollaert en feu qui va recevoir donc Arsenal. Voilà, Lens qui va peut-être essayer de prendre un point ou trois, on ne sait pas, face à Arsenal, en sachant que les Lensois, on rappelle, ont fait match nul un partout lors de la première journée. Je vais vous donner les compos parce que c'est quand même un match qui va être très intéressant. C'est du classique, hein, avec Brice Samba dans les buts, la défense. Bon, à 3 ou à 5, c'est comme vous voulez, avec Gradit, Danso, Medina dans l'axe et sur les côtés Frankowski et Machado. Au milieu de terrain, c'est Abdoul Samed et Mendy, non pas Lys Mendy, pas Benjamin ou Ferland, mais non pas Lys Mendy qui vont donc occuper le milieu de terrain. Et puis l'attaque, Sotoka, Thomasson et Eli Wahi qui avait marqué un très beau but ce week-end contre Strasbourg. Pour Arsenal, pareil, du classique, Odegaard, Havertz, Rice, Saka, pas de Martinelli, mais un Trossard aussi qui est plutôt intéressant, Gabriel Jesus, la défense, Saliba, Gabriel, Tomiyasu, Zinchenko et David Raya dans les buts. Messieurs, rapidement, est-ce qu'on croit à l'exploit à Lensois ce soir?
Évidemment.
Il faut se mouiller.
J'y crois, porté par le public en feu. J'imagine que tout le stade va se mettre debout, va chanter. Franchement, l'ambiance va être incroyable, j'imagine, à Bollaert. Et c'est ça qui va galvaniser les joueurs et leur permettre de gagner 2-0. Tiens.
Oh là là,
saisis.
Parce que en plus Clément, pendant la pause musicale, nous disait je vais regarder tous les pronos et on va regarder tout ce qui va se passer cette saison. Donc ouais, attention à ce que tu dis, Faustin. Clément, toi, vas-y.
Bon allez, 2-2.
2-2.
Ouais, 2-2.
OK, gros match avec pas mal de choses. Cédric.
Ça va être logiquement un match tendu, je pense. Sur le papier, Arsenal qui est en super réussite en ce moment. Donc, je vois plus, ouais, le match nul, mais je pense que les Lensois vont bien les titiller, ils vont pas faire les petits poussés. Et puis Lens est, premier match, on va dire.
À domicile
en Coupe d'Europe depuis
très longtemps.
La dernière fois qu'ils ont joué contre Arsenal, c'est, je crois que ça remonte à il y a 20 ans, je crois. Ouais. À peu près, enfin ça. Ouais. Donc
au début du siècle.
Je suis confiant en tout cas. Mais ouais, moi je vais à plus à 1-1 quoi.
Quant à moi, c'est assez paradoxal parce que j'adore cette équipe de Lens. Le match contre Séville a été vraiment intéressant. J'ai beaucoup aimé et je suis à fond derrière Lens, hein. Vraiment, croyez-moi, mais j'ai un très très mauvais feeling par rapport à ce match. Malheureusement, malgré Bollaert, malgré le feu, malgré tout ce qui a se passé, j'ai peur qu'on soit très déçus. Mais en tout cas, voilà, je m'attends à rien, donc je peux être que agréablement surpris. Mais j'ai peur d'une victoire assez autoritaire d'Arsenal qui est en pleine forme en première ligue. On verra ça.
Après une défaite.
J'espère avoir tort. Ça c'est clair.
En soi, si dernière, il y a eu du répondant.
Oui, voilà.
Ce sera qu'un demi échec. Parce que voilà.
Exactement.
C'est vrai que Arsenal est favori pour être premier de cette poule là.
Parce que là, si Lens y gagne, ils se mettent dans de très très bonnes conditions. Il est pour pour passer dans le huitième.
C'est sûr.
Avec encore Séville et Eindhoven à jouer derrière. Et puis un petit point Ligue 2, puisque voilà, Bordeaux jouait un match en retard contre Caen. Ça intéresse pour rapport au SCO. Un partout entre les deux équipes. Caen qui est pas si bon, voilà, qui avait bien commencé, mais qui
régresse un peu. Très bon début de saison. Hein.
C'est ça. Bah là, ils sont dixième avec 13 points. Et puis Bordeaux seulement une 13e place avec 11 petits points. Voilà pour.
Est-ce que tu veux une breaking qu'on attendait de nulle part?
Dis-moi.
Une signature d'un ancien entraîneur de Ligue 1.
Oui, j'ai eu la notification comme toi. C'est vrai.
Galtier qui va au Qatar finalement.
Qui a gardé des bonnes relations donc avec les dirigeants parisiens.
C'est un peu surprenant, j'ai envie de dire. Lui qui disait qu'il voulait se mettre un peu en retrait le temps que le procès ait lieu. Donc du coup.
Mais il voulait aussi remplir son compte en banque. Hein quoi?
Non, en tout cas, non. Non, mais en tout cas, voilà, c'est...
Bref, voilà.
On sait qu'en tout cas, ça sera pas...
c'est bien, ça termine bien la page foot.
Voilà.
Christophe Galtier qui va signer au Qatar. On va enchaîner sans plus tarder maintenant. On va faire basket, tiens, avec toi, Faustin. On va parler NBA avec l'événement, on va dire, qui s'est produit. En tout cas, l'actualité la plus chaude en NBA, c'est ce transfert qui peut bousculer pas mal de choses sur le championnat à venir. Est-ce que tu peux me rappeler le début de saison de NBA?
Ça reprendra le 24 octobre.
Donc voilà, dans à peu près trois semaines. Semaines de jour pour
Denver Lakers.
Denver Lakers, ça a l'air pas mal. Ouais. Et du coup, donc, comme je disais, le transfert, le trade, comme on dit, de Damian Lillard, donc, qui est un peu qui était le meilleur joueur de Portland.
Exactement.
C'est ça, qui jouait à Portland.
Depuis 11 ans, il jouait à Portland.
Ça faisait longtemps qu'il jouait là-bas.
Il a joué toute sa vie là-bas.
Ok, très bien. Et du coup, qui va aller, du coup, à Milwaukee, à rejoindre Giannis Antetokounmpo.
Exactement.
Je te laisse développer.
C'est le gros trade blockbuster, comme on l'appelle, de cet été, enfin de cette trêve, parce qu'on n'est plus en été du tout. On l'attendait du côté de Miami. Damian Lillard avait lui-même demandé au dirigeant des Blazers de se diriger du côté de Miami, mais le package côté Miami était trop léger, les joueurs n'étaient pas assez bons, et donc il a été préféré du côté des Bucks. Il était transféré donc contre DeAndre, parce que c'est un trade spécial, c'est à trois équipes sont incluses dedans. Okay. Donc les Bucks récupèrent uniquement Damian Lillard, mais en contrepartie, ils ont dû envoyer Jrue Holiday, qui était donc leur meneur principal, qui a été envoyé ensuite à Boston.
Ouais.
Voilà. Ils ont aussi envoyé du coup DeAndre Ayton, qui vient lui des Suns, Toumani Kamara, qui vient des Bucks, et trois tours de draft qui viennent des Bucks aussi. Les Suns, eux, ils reçoivent Yusuf Nurkić, qui était le pivot de Portland, Grayson Allen qui était un ailier des Bucks, Nassir Layton et Keon Johnson qui étaient à Portland eux aussi.
Voilà, c'est un gros. Il y a pas mal de choses, ouais. Mais l'info principale en tout cas, c'est Damian Lillard qui est quand même un joueur référencé dans la ligue, un joueur clairement. Un peu All-Star, on va le dire. Et qui rejoint un deuxième All-Star, j'ai envie de dire. Est-ce que ça en fait un des favoris cette franchise des Bucks?
Ouais, du coup, il joue dans la conférence Est et c'est clairement le favori, l'immense favori, parce que en fait, Damian Lillard apporte toute la complémentarité qu'a Giannis Antetokounmpo. En fait, c'est-à-dire du shoot très longue distance, des jeux sur pick and roll et tout ce qu'il faut. Il pêche un peu au niveau de la défense, mais c'est très bien comblé dans l'équipe des Bucks qui compte de très bons défenseurs dans ses rangs, dont Giannis Antetokounmpo. Donc voilà, et ça va être le match aussi Boston contre les Bucks va être très beau à voir parce que Jrue Holiday, donc le meneur qui était envoyé à Boston, avait annoncé 24 heures avant le trade qu'il voulait finir sa carrière, faire toute sa carrière aux Bucks, et 24 heures après, il est viré du club comme
pas
un
cool.
Malpropre.
Pas cool. Pas
à mon avis, de la rancœur contre certains dirigeants, et ça va être tendu les matchs Boston Bucks, et ça va être des beaux matchs.
En tout cas, voilà la saison de NBA qui se prépare. Je pense que tu vas pouvoir nous faire vivre ça, cette effervescence autour de la reprise de NBA.
Ouais.
Dans les Wembanyama.
C'est ça, la Wembanyama qu'on l'appelle.
qui a pris de la masse et qui est en forme, d'après ses dires.
Aïe, aïe, aïe. Ça va faire mal. Ouais, ça va faire mal.
J'ai très, très hâte.
Il nous en parlait déjà toute la saison dernière. Et ben, il va continuer toute cette saison. Je vous préviens, chers auditeurs. À chaque émission, on va le placer sur la saison 2023-2024, puisque, on le rappelle, il va probablement jouer les Jeux à Paris en 2024. Et on rappelle, Génération Sport va suivre les Jeux tout au long de l'année, la préparation des Jeux. Et on vous proposera quelques chroniques de temps en temps sur les différents sports et les différents enjeux de ces Olympiades. On va passer maintenant au rugby avec Clément, qui nous a préparé certains résultats. Alors, les Bleus n'ont pas joué, mais il y a quand même certains enseignements à tirer avec quelques résultats. Je te laisse la main.
Donc, depuis mardi, il n'y a pas eu vraiment de surprise pour tous les matchs. Donc, dans la poule de la France, dans la poule A, l'Uruguay s'impose 36-26 face à la Namibie. Mais c'est un peu anecdotique parce que c'était un match pour la 4e et la 5e place. Et donc la Nouvelle-Zélande, permettez-moi l'expression, a mis un carton 96-17 face à une Italie plus que décevante. et qui va sûrement être en mauvaise position pour affronter les Bleus vendredi soir. Donc dans le groupe B, l'Écosse a écrasé 84-0 la Roumanie et l'Afrique du Sud s'impose facilement 49-18 face au Tonga et assure sa place en quart de finale et sauf défaillance de l'Irlande sera sûrement le prochain adversaire du CASE de France. Dans le troisième groupe, l'Australie a battu 34-14 le Portugal et doit attendre le match Fidji-Portugal pour connaître son sort. Tandis que eux, les Fidji, ils ont battu la Géorgie 17-12 et ils peuvent réaliser l'exploit de se qualifier pour les quarts de finale en battant le Portugal, comme je le disais tout à l'heure. Si l'Australie sort, c'est vraiment une
grosse surprise.
Voilà, c'est ça, une grosse surprise parce que c'était pas du tout attendu. Et dans le dernier groupe, l'Argentine gagne face au Chili sans surprise 59-5 et jouera contre le Japon pour un match décisif pour la deuxième place qualificative en quart. Et le Japon, eux, sont aussi en confiance car ils se sont imposés dans un match très serré, 28-22, face au Samoa. Donc comme je le disais tout à l'heure, la France, elle joue vendredi soir avec un retour de Antoine Dupont dans le groupe mais qui ne jouera pas vendredi. Et on n'est toujours pas sûr de savoir s'il joue en quart de finale, donc sûrement contre l'Afrique du Sud.
L'Afrique du Sud, donc pour, voilà. Pour les Bleus probablement, car on avait un peu évoqué la semaine dernière hein, l'avenir de ces Bleus avec Dupont qui finalement va peut-être s'en remettre. Alors il y a des incertitudes, mais je crois que William Servat avait dit que
ça
devrait le faire. On verra hein, par rapport à ça pour Dupont.
Je pense qu'il laisse planer le doute aussi pour pour l'Afrique du Sud, tout ça.
On rappelle que les Bleus, même si on est assez serein, n'ont pas le droit à l'erreur contre l'Italie puisque ils peuvent être éliminés.
Là, tout va dépendre en fait
des bonus, mais je crois que
non, ils peuvent être éliminés.
Ouais, c'est ça. S'ils perdent dans tous les cas,
ils perdent. Ouais, dans tous
parce
les
qu'ils n'ont pas assez, ils n'ont pas ça. Obtenu de
ils
bonus.
Ils ont 13 points et l'Italie a 10 points, donc s'ils gagnent, même sans bonus, ils gagnent 14.
C'est ça, en fait, ils n'ont pas chopé de bonus ni contre la Nouvelle-Zélande ni contre l'Uruguay, donc ils n'ont pas. Même grâce à leur victoire face à la Nouvelle-Zélande, ils pourraient avec une seule défaite sortir. On n'y est pas encore.
Après,
reste favori largement. Mais ça reste des enjeux importants.
C'est surtout l'Italie en fait qui même sans jouer son match a tout à perdre en fait.
Ouais, c'est ça.
Parce que alors c'est ça que je trouve ça un petit peu dommage. J'aime bien ce principe-là au foot, c'est que là le Nouvelle-Zélande Uruguay va se jouer jeudi soir et le match France-Italie se joue le lendemain.
Ouais.
Donc en gros sur le papier normalement la Nouvelle-Zélande devrait
dérouler
et surtout du coup rester à la deuxième place et ça veut dire qu'en termes d'écart l'Italie ils n'auront pas le choix, c'est il va falloir qu'ils bétonnent pour aller chercher un résultat et je pense qu'après le 96 qu'ils se sont pris dans la tête
ça
va être très dur de se relever. À nous de en fait de les mettre en difficulté d'entrée de jeu, va falloir les bouger je pense vite fait, histoire de mettre deux essais, je pense, voilà, histoire de...
Déjà se mettre à l'abri, quoi.
Ouais, mais c'est pour ça, tu mets deux essais d'entrée de jeu, ça va déjà bien les plomber. Et après, pas forcément chercher le gros score KO, mais bien défendre, parce que comme ça, ce sera une bonne préparation aussi. Derrière, ça va être costaud, surtout si c'est l'Irlande, c'est plus dangereux que l'Afrique du Sud, j'ai l'impression.
Je suis pas sûr.
Mais
sincèrement, je suis pas sûr.
Après, c'est pareil, on va rentrer sur des matchs à mort, donc.
C'est ça.
Arrêter du terrain, c'est toujours.
Voilà, mais en tout cas, voilà, c'est nous, on n'est pas, j'ai envie de dire, trop en danger.
Non.
C'est vraiment l'Italie là qui a même plus vraiment son destin en main, quoi. C'est. Je pense qu'ils espèrent que les Uruguayens ils sortent le match de leur vie, qu'ils battent les Nouvelle-Zélande. On sait jamais, hein, tout est possible, mais ça va être dur.
Le rugby, ça fait pas de cadeaux. Souvent, il y a très peu de surprises dans les matchs comme ça. Enfin, ce sera vraiment.
D'un côté, France Uruguay.
Mais il y avait l'équipe bis de l'équipe de France. Là, ça m'étonnerait que.
Ils ont pris en confiance. Enfin, c'est.
Bref, voilà pour ça. Pour Dupont, est-ce que c'est inquiétant, messieurs?
Qui soit dans le groupe, c'est bien pour la confiance.
Ouais.
Voilà. Surtout c'est le capitaine, quoi. Donc
c'est toujours
plus. Bien d'avoir son capitaine.
Après, avoir réellement, de toute façon, ça aurait été complètement illogique de le faire jouer contre l'Italie. Oui. comment va se remettre la blessure, comment les points vont tenir aussi. Enfin, il y a beaucoup de choses à voir. On sait qu'il y a des joueurs qui ont tenté le pari par le passé, et ça s'est bien passé. S'il doit revenir qu'en demi, bah qu'il revienne qu'en demi. Hein, j'ai envie de dire, faut pas non plus
prendre de risques.
Prendre de risques. Hein, c'est enfin au-delà de une victoire en Coupe du Monde, il y a sa saison derrière qui peut te foutu.
Ouais.
Pas forcément une carrière, mais en tout cas, ça peut laisser des traces. Enfin,
qui préserve son beau visage.
Bon,
bah non, mais
oui. Mais
non, en vrai, ça devient un produit marketing de plus en plus.
Non, donc, mais oui, non, mais...
ça va jouer de fou.
Mais non, en tout cas, enfin, moi, je retiens, c'est plus l'aspect, voilà, médical ou.
Oui, évidemment.
Coûte que ce coûte, faut pas tout tenter n'importe quoi. Enfin, je préfère mille fois qu'on perde cette Coupe du Monde à la maison et que lui derrière, il en rejoue.
Il puisse rejouer.
Deux, trois,
quoi.
Voilà, et puis
il nous en gagnera peut-être une autre.
C'est quoi. Ça, voilà, aussi.
Je suis d'accord.
Mais en tout cas, c'est bien qu'il a pu rester au moins dans le groupe pour la confiance. Pour apporter des conseils, des choses comme ça. Enfin.
Et du coup, rapidement, parce qu'il est 51 déjà, cette charnière Ntamack Dupont qui, du coup, est un petit peu décimée, quoi. Est-ce que ça va manquer, Clément?
Bah, il y a surtout l'aura que dégage cette charnière Dupont Ntamack qui est la meilleure du monde pour moi. Et quand on voit contre la Nouvelle-Zélande, rien que quand Dupont il rentre dans le couloir avant le match, il y a tous les Néo-Zélandais qui le regardent comme ça. C'est quelque chose d'impressionnant, je pense, de jouer contre Dupont et de pas l'avoir.
On déteste ce genre de phrase, mais c'est la Mbappé du rugby. Quoi.
Bah,
c'est vraiment la pire phrase, mais je la sors quand même parce que voilà, c'est pour comparer un petit peu.
C'est même le Messi du rugby.
Voilà, ouais, tu peux le dire.
Mais
ça marche la comparaison, les deux sont blessés.
Mais oui, c'est quand même quelque chose de super important d'avoir le meilleur joueur du monde à ses côtés. Et pour Ntamack, bah, maintenant, c'est passé depuis longtemps. Enfin, on ne s'est pas oublié, mais...
Mais donc, ça fait ça plus ça, quoi.
Ouais, voilà, c'est ça. Ça fait mal quand même. Mais... Je suis confiant par rapport au banc. Pour l'instant, ils ont géré, donc... À voir par la suite.
Exactement, on verra par la suite si l'équipe de France de rugby parvient déjà à se qualifier pour les quarts et puis ensuite à aller chercher ce titre mondial. On va enchaîner maintenant avec le handball, quelques petits résultats de Ligue des Champions avec les clubs français. Montpellier a décroché sa première victoire la semaine passée, 30-28 contre le Wisla Plock. Ça se passe pas hyper bien pour les Montpelliérains qui ont deux défaites en trois matchs. Et pour le PSG qui était assez impérial l'année dernière, pareil, plus compliqué, une victoire 31-29 contre Chesgued. Puis 35-31 contre Zagreb et cette défaite d'un but contre Kielce, 30-29. Donc voilà, un début de saison très calme pour les Parisiens. Au niveau de l'actualité, on va pouvoir aussi aller vers le golf avec ce week-end ce qui s'est passé du côté de la Ryder Cup et cette victoire. Pour qui? Pour les Européens qui ont donc remporté cette 44e édition du côté de Rome. C'est une période d'invincibilité à domicile qui tient donc maintenant depuis 1993. Et oui, il y en avait trois d'entre nous qui n'étions pas nés à ce moment-là. On ne donnera pas les noms, évidemment. On ne donne pas nos âges. Bref, en tout cas, voilà, les Européens qui se sont largement imposés 16.5 à 11.5. Voilà la victoire européenne nette et sans bavure.
Et pour faire un petit parallèle avec le fil rouge des JO, je vais voir le golf aux JO. Donc voilà, peut-être que je pourrais vous renseigner.
Oui, c'est vrai. Tu vas voir quoi d'autre comme épreuve, Clément?
Je vais voir le hockey sur gazon féminin et le canoë. Kayak en ligne.
Ça reste bien. Non mais au moins tu vas au jeu, c'est quand même assez exceptionnel. Non mais premier degré.
Le village olympique, tout ça.
On parle de jeu. Ne saviez-vous que l'équipe de France en tout ce qui est agré, tout ça, comment on appelle ça?
Accréditation?
Non, agré.
Gymnastique.
De gymnastique.
Ah, pardon, oui.
N'ira pas au JO.
Comment ça?
Ils ne sont pas qualifiés.
C'est impossible.
Eh ben non.
Il faut qu'il y ait des engagés.
En fait, ils ont fait une compétition qui était qualificative pour les JO.
Oui, hier.
Et malgré qu'ils soient du pays organisateur, ils ont complètement
est-ce
raté.
Est-ce qu'elles ont pas participé, mais pour de...
Non, ils ont participé comme tout le monde et du coup.
Oui, mais est-ce que c'était pas en mode...
Non, c'est la contre-performance. Du coup, apparemment, ils seraient pas au JO. C'est un peu étonnant puisque normalement le.
Ouais, faudra qu'on retrouve cette info quand même. Mais.
Si, je viens de.
Ouais, ouais, voir,
au lendemain de la désillusion des hommes, seulement 19e et sans quota olympique.
Ok.
Voilà,
c'est intrigant.
C'est très intrigant, ouais. C'est normalement quand t'es le pays organisateur.
Bah, en gros, sur chaque médaille qui doit se jouer, en gros, normalement, le pays organisateur doit engager une équipe ou un athlète.
Bah, l'équipe de France féminine de gymnastique, par contre, a validé le précieux sésame pour les Jeux de Paris.
Mais voilà, pour les hommes, c'est un peu étonnant.
C'est assez original, donc on suivra ça. On va essayer de vous proposer, chers auditeurs, des chroniques tout au long de l'année sur les Jeux. Ne vous inquiétez pas. On va terminer puisqu'il nous reste 4 minutes. On prend pas beaucoup de temps parce que c'est un événement qui a duré pas beaucoup de temps, qui dure depuis longtemps, on va dire, sur les médias. Bref, ce combat de MMA entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo qui était très attendu. Pourquoi ? Notamment parce que Cédric Doumbé est un très grand
trash talker,
showman, tout ce que vous voulez. Et donc voilà, ce combat qui s'est déroulé en 8 secondes, en 9 secondes.
Ouais, selon les experts, c'est entre 5 et 10 secondes.
Il y a pas grand-chose à analyser, si ce n'est que Jordan Zebo a priori pas fait le bon choix en essayant de l'attaquer faire un high kick
un coup de pied donc au niveau de la tête
au champion du monde de kickboxing, quoi. C'est vrai que un peu original. Là, on va plutôt libérer l'émission, mais rapidement, c'est un combat que vous avez suivi, les gars?
J'ai eu le temps de le voir.
Disons que ça se regarde sur un GIF sur Twitter, donc.
Voilà, moi je l'ai vu réellement sur une vraie télé.
Oui, moi aussi, mais complètement fou comme.
Mais il fallait pas cligner des yeux. Moi, j'ai pu le voir dans un bar et.
Ouais.
Il y a beaucoup de gens qui ont raté.
Et forcément, ça va très vite. En tout cas, merci d'avoir été avec nous pour cette émission de Génération Sport. On va vous laisser avec la suite des programmes et tout de suite imaginaires qui vont nous succéder dans les studios de Radio G. Et nous, on se dit à mardi prochain pour une nouvelle émission de Génération Sport.
Il va falloir faire tout seul.